Vous écoutez RFI, il est 11h en temps universel, midi à Paris. Le journal présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Dans l'actualité, un match de football ultra sécurisé compte tenu du contexte politique. France-Israël ce soir au Stade de France. 4000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés à suivre dès le début du journal. Toujours en France, l'avenir politique de Marine Le Pen s'assombrit. Au procès des assistants parlementaires Rassemblement National, le parquet a requis 5 ans de prison, dont 2 fermes, ainsi qu'une peine d'inéligibilité. Les présidents américains Joe Biden et chinois Xi Jinping arrivent aujourd'hui à Lima. La capitale péruvienne accueille un sommet des pays de la zone Asie-Pacifique. Leur tête-à-tête samedi sera sans doute le dernier avant le départ du président démocrate de la Maison-Blanche. C'est le jour J pour le match de football qui fait tant parler depuis plusieurs jours. L'équipe de France affronte Israël ce soir au Stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations. C'est la 5e et avant-dernière journée avant les quarts de finale. Il va de soi que, compte tenu des tensions politiques du moment et des violences récentes à Amsterdam, eh bien la rencontre se déroulera ce soir sous haute surveillance policière. D'importants moyens sont déployés. Cela étant, Saliou Diouf, les 22 acteurs devront faire fi du contexte.
Quand on interroge le milieu de terrain de l'équipe de France, N'Golo Kanté, sur les discussions entre joueurs ces derniers jours, le conflit israélo-palestinien n'était pas au programme.
Non, depuis que je suis arrivé, je n'ai pas entendu quelque chose dans ce sens-là. La seule chose que j'ai entendue, c'est voilà, de se qualifier, de voir comment ça se passerait pour le Final 8 et d'assurer le point qui nous permettrait de se qualifier.
Celui qui sera capitaine lors de cette rencontre est tout de même sensible à tout ce qui se passe dans cette zone.
Moi, personnellement, ça fait un peu de peine et un peu attristé de voir ce qui se passe. On espère que ça s'arrange.
Même son de cloche pour son entraîneur Didier Deschamps. Impossible de faire abstraction de l'atmosphère pesante.
Évidemment, l'ensemble du groupe France, il n'y a personne qui peut être insensible au contexte qui est lourd et pesant. Je ne sais pas en parler aux joueurs, mais... Évidemment, parce que ça amène des conséquences par rapport au nombre de présence des supporters demain et tout ce qui va avec.
Il y aura moins de spectateurs qu'à l'accoutumée dans l'enceinte de Saint-Denis au coup d'envoi. 20 000 personnes sont attendues dans les gradins, dont une centaine de supporters israéliens.
Saliou Diouf du service des sports. En marge du match France-Israël, quelques 4 000 forces de l'ordre sont mobilisées. Enfin, de nombreux responsables politiques, dont le président Macron, mais aussi ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy, ont prévu d'assister au match. Nouvelle avancée russe dans l'est de l'Ukraine. La Russie revendique la prise d'un village près de Kourakové. C'est l'un des secteurs du front où ses troupes avancent face à une armée ukrainienne en recul depuis plusieurs mois. Au Liban, à nouveau des frappes israéliennes ce matin au sud de Beyrouth. L'armée israélienne poursuit ses bombardements des bastions du Hezbollah. Depuis 3 jours, ces frappes sont quotidiennes. Les présidents américains Joe Biden et chinois Xi Jinping arrivent aujourd'hui à Lima. La capitale péruvienne accueille un sommet des pays de l'Asie-Pacifique dans le cadre de l'APEC, organisation qui réunit 21 pays et représente 60% du PIB mondial. Les dirigeants des 2 plus grandes puissances mondiales ont prévu de se rencontrer samedi en marge du sommet. Ce sera sans doute leur dernier tête-à-tête officiel avant le départ de Biden de la Maison-Blanche. Avec l'élection de Donald Trump, le climat devrait à nouveau se tendre entre Washington et Pékin. Le commerce et Taïwan sont les 2 grosses pierres d'achoppement. Retour en France où le parquet a prononcé son réquisitoire au procès des assistants d'eurodéputés Rassemblement National, ex-Front National. Jugé pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen risque 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, ainsi qu'une peine d'inéligibilité de 5 ans. Autant dire que son avenir politique s'obscurcit. Raphaël Delvolvé, bonjour.
Bonjour.
Marine Le Pen pourrait se voir interdite de se présenter à la prochaine présidentielle à laquelle elle est déjà candidate.
Oui, menace réelle si début 2025. Les juges du fond suivent les réquisitions, il y aurait ce que l'on appelle une exécution provisoire, c'est-à-dire que même en cas d'appel, la peine s'applique. En l'occurrence, vous l'avez dit Gilles, 5 ans sans pouvoir se présenter à la moindre élection, à moins d'un nouveau jugement plus favorable, mais sous réserve qu'il soit prononcé avant 2027, rien n'est moins sûr. Évidemment, ça choque le parti nationaliste, le député RN Thomas Ménager.
Empêcher aujourd'hui celle qui est la favorite pour se présenter en 2027 et être président de la République ne serait pas digne d'une grande démocratie qui est la France.
L'élu lepéniste se dit par ailleurs convaincu que le dossier contre le RN est bancal, qu'il n'y a pas eu par exemple d'enrichissement personnel. Pour rappel, on reproche au parti à la flamme d'avoir utilisé des assistants d'eurodéputés pour des tâches relatives au parti et non aux travaux parlementaires de Strasbourg.
Alors ce réquisitoire divise néanmoins la classe politique où les adversaires du RN sont nombreux.
Oui, des poids lourds comme l'ancien ministre macroniste Gérald Darmanin s'inquiète d'une interdiction de candidature. Ça pourrait, écrit le désormais simple député, creuser le fossé entre les élites et les citoyens. Position partagée par certains au Modem, la formation centriste qui a déjà eu maille à partir avec la justice pour les mêmes motifs que le RN, le député Richard Ramos.
Évidemment, la justice est libre, elle est autonome. Si on me demande pourquoi moi je pense qu'elle doit ne pas être condamnée, je trouve que c'est pas juste et on pourrait imaginer qu'il y a la République des juges.
À gauche, en revanche, une possible interdiction ne choque absolument pas le socialiste Arthur Delaporte.
Si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, c'est parce qu'elle aura détourné des centaines de milliers d'euros d'argent public et qu'elle aura été condamnée pour cela. Et donc, ben, moi, je suis défenseur des principes fondamentaux de la République, qu'on soit puissant ou misérable.
Voilà une ligne également partagée à droite, notamment par le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, dont l'accession, rappelez-vous, à Matignon, cet été avait été empêchée par une certaine Marine Le Pen. On attend maintenant donc la décision des juges. Avec cette question, les faits reprochés au RN sont-ils suffisamment graves pour empêcher leur porte-voix, deux fois qualifié au second tour de la présidentielle et pesant à peu près à l'aune des dernières élections législatives 11 millions de voix, de se présenter aux élections.
Enquête signée Raphaël Delvolvé du service politique. Merci à vous Raphaël. On s'intéresse maintenant à la laverie, mais rien à voir avec les lave-linges. La laverie, c'est le nom du plus gros point de deal, le trafic de drogue des Alpes-Maritimes sur la Côte d'Azur. Il se trouve à Nice dans la cité des Moulins. Siam Spencer est journaliste dans un nouveau livre publié aujourd'hui par Robert Laffont. Elle raconte le quotidien de ce quartier gangréné par le trafic dans lequel elle a vécu pendant 7 mois, quartier dans lequel l'entraide est importante mais où les bruits des guetteurs sont incessants. Avec Frédéric Genot, Siam Spencer revient d'abord sur les raisons des violences et des balles perdues qui se multiplient.
Il y a des enjeux financiers très forts. Le point de deal à la laverie, c'est entre 15 000 et 20 000 euros de recettes par jour, donc ce qui est quand même énorme. On est sur des ados la plupart du temps et qui en plus de ça sont consommateurs donc de cannabis. Alors c'est pas le cas partout, mais il y a de l'alcool et en fait la consommation des deux fait qu'on on se retrouve avec des jeunes camés ou des mineurs non accompagnés pareil qui sont dans des états seconds et qui peuvent avoir aussi des switchs, des coups de folie et dans un climat de stress ambiant qui est assez fort parce qu'il y a justement des tensions entre clans rivaux et c'est là justement qu'on peut se retrouver avec des armes et avec un clan qui va débarquer tirer sur tout le monde ou des coups de couteau et c'est là que ça devient vraiment dangereux.
Vous racontez aussi comment au début vous mettez votre matelas par terre pour échapper à une balle perdue.
C'est ça, j'habitais au rez-de-chaussée et la première fois que je me réveille au moulin, il y a eu des tirs quasiment en face de chez moi, quoi, des tirs quasi sous la fenêtre. Et donc rapidement, moi, je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'être à hauteur de tir, on sait jamais s'il y a une balle qui traverse le mur. Je me rapprochais du sol, pardon.
Les rapports avec la police sont-ils ceux que vous imaginiez ?
Non, c'est moins tendu que ce que je pensais. Je suis arrivée avec un petit peu des a priori. Je me suis dit, bon, ce serait pas étonnant qu'il y ait une bavure ou des choses comme ça. Alors, ça peut être tendu parce que les habitants, notamment les hommes, parlent beaucoup de contrôle trop fréquent et qui, eux, les mettent mal à l'aise, les agacent. Mais c'est moins tendu dans le sens où il y a des moments de discussion, en fait, vraiment entre les policiers, les jeunes d'une part, mais surtout les familles. Tout le monde cohabite, tout le monde sait que les policiers sont là, les dealers sont là, les habitants sont là. Et c'est un petit monde qui cohabite.
Mais en même temps, les policiers sont très pessimistes sur l'évolution de la situation et du trafic de drogue qui arrive dans toutes les villes.
Oui, complètement. On m'a plusieurs fois parlé d'une vague en fait qu'on peut pas arrêter et que les choses s'empirent, qu'ils ont l'impression de ne rien pouvoir faire et souvent quand ils arrivent, c'est déjà qu'il est trop tard et que ils se sentent finalement assez impuissants par rapport à ce trafic-là. Ils font ce qu'ils peuvent et leur mission c'est d'être là pour 3-4 heures tous les jours et se dire pendant ces 3-4 heures-là, il y a moins de risques qu'il y ait une balle perdue, il y a moins de risques qu'il y ait un jeune qui se fasse planter avec un poids poignard. Et ça peut être, sur ces 3 heures-là, un moment de répit pour les habitants qui, eux, pour le coup, ont rien demandé et au Moulin sont très en colère et le disent à face découverte, ce qui n'est pas le cas de tous les quartiers.
C'était Siam Spencer avec Frédéric Genot, midi 10 ici à Paris, très bientôt, dans quelques secondes, une heure de moins. Antoine Yersel, l'information continue sur RFI avec un grand reportage.